Chapitre 19. Thaddeus, le nouveau maire de Renda-sur-Bey, parut ravi de recevoir deux érudits venus de surplomb du monde.
« Nous ferons tout pour vous aider, » répéta-t-il aux deux jeunes gens. « Pour la magicienne Nietzsche et le sorcier Nathan, nous sommes prêts à tout, car ils ont sauvé notre village. Et même Bannon, leur escrimeur, a fait un massacre parmi les Norokai. Je crois qu'il a une dent contre eux. »«
Oui, » approuva Oliver. « Nous les avons vus combattre d'incroyables ennemis. Ils ont tant d'histoires à raconter. »
Le jeune homme tapota la sacoche dans laquelle il portait les messages destinés à Dara.
« Si je n'avais pas vu certaines choses de mes yeux, je n'y croirais pas. »«
Nous avons fait la même expérience, » dit Thaddeus. « Si vous participez à notre petite fête ce soir, nous échangerons nos récits. »«
Je peux réciter les nôtres mot à mot, » dit Peretta. « Chaque détail est gravé dans mon esprit. »«
Elle ne se vante pas, » assura Oliver, « et elle ne vous le laissera pas oublier. » La jeune fille se rembrunit comme si son compagnon venait de l'insulter. Préparé à cette réaction, Oliver éclata de rire. Malgré tout, il ne regrettait pas que Peretta soit avec lui. Quand elle posa les yeux sur lui, la mémoriste se radoucit.
« Oliver et moi, nous voyageons ensemble depuis trop longtemps. Parfois, nous devinons ce que l'autre pense. »
« De toi, je ne pense que du bien, » assura Oliver.
« Ensemble, nous avons une mission à accomplir. »«
C'est vrai, et j'avoue que tu fais un compagnon acceptable. »
Oliver s'empourpra et Peretta le gratifia d'un ricanement. En un sens, ils se ressemblaient beaucoup. Tous deux nés et élevés à surplomb du monde, ils adoraient les vieux livres et l'histoire. Le père d'Oliver s'occupait d'un verger et était aussi apiculteur. Enfant, le futur érudit l'aidait à cueillir les poires et les pommes et à sortir les rayons des ruches afin de collecter le miel. Mais plus d'une fois, il s'était fait tancer parce qu'il rêvait éveillé aux histoires consignées dans les livres. De Guerlas, son père avait autorisé les érudits à l'évaluer. Une fois sûr qu'il avait les moyens de ses ambitions, Oliver n'avait plus pensé à autre chose. Un jour, alors qu'il avait par erreur renversé une ruche, un essaim d'abeilles s'était répandu dans le canyon. Pour échapper à la mort, conséquence inévitable de centaines de piqûres, Oliver avait dû plonger dans un ruisseau tête la première. À l'époque, il avait l'esprit occupé par plusieurs projets d'archivage des sortilèges, alors qu'il ignorait à peu près tout de la magie. Furieux, son père l'avait pris par le col et, encore trempé, l'avait forcé à monter jusqu'à surplomb du monde. Là, il l'avait conduit devant Simon, le conservateur.
« Croyez-moi, il vous sera bien plus utile ici. » « De plus, il sera heureux, et avec sa mère, nous viendrons le voir régulièrement. Mon fils, lis jusqu'à plus soif. Moi, je vais aller réparer tes dégâts. »
Même s'il adorait ses parents, l'appel de la grande bibliothèque avait été trop fort pour Oliver. Et encore aujourd'hui, alors qu'il s'était porté volontaire pour cette mission, il rêvait de retourner à ses chères archives. Cela dit, ce voyage, il le savait, lui en apprendrait plus sur le monde que les lectures de toute une vie. Pour honorer les visiteurs, les villageois organisèrent sur la place principale un banquet à base de chèvres rôties et d'une étrange soupe de moules et d'algues au goût délicieusement salé. Alors que tout le monde voulait converser avec lui, Oliver fut embarrassé d'être le centre de l'attention. À surplomb du monde, il était le plus souvent seul avec ses livres et ses rouleaux de parchemin. Assis à côté de Peretta, il constata qu'elle était beaucoup moins timide que lui. Très sociable, elle bavardait avec quiconque lui manifestait de l'intérêt. Nietzsche avait été très clair. Loin d'être secret, ses rapports devaient être rendus publics afin que les peuples de l'ancien monde se rallient au seigneur Ral et aux règles fondamentales qui régissaient l'empire d'Aran. De leur côté, les villageois se montraient intarissables sur l'attaque des Norokai et la résistance héroïque de Nietzsche qui les avait repoussés, détruisant au passage trois de leurs navires. Au cours du repas, tandis que la nuit tombait, Thaddeus présenta aux jeunes érudits un homme au visage tanné par le vent et l'iode qu'il charriait. Ses cheveux tombaient au-delà de ses oreilles où il faisait la jonction avec une barbe en broussaille.
« Voici Kenneth, » dit le maire, « un pêcheur au cœur indomptable qui possède son propre bateau. »
Kenneth serra la main d'Oliver, manquant lui arracher l'épaule. Quand il passa à Peretta, il se montra plus doux, mais la menotte de la jeune fille disparut dans son immense pogne.
Plus important encore, même si j'y ai grandi, je n'ai aucun lien particulier avec Renda-sur-Bey.
Kenneth veut dire qu'il est prêt à vous conduire au nord dans son bateau, expliqua Thaddeus. J'ai entendu parler des villes du nord, mais je n'en ai jamais vu.
Kenneth se gratta la barbe, ses doigts s'y enfonçant à demi.
Depuis toujours, je guettais un prétexte.
Vous avez des cartes pour nous repérer? Demanda Oliver.
Des cartes? Non, mais si nous cabotons assez longtemps en direction du nord, ça devrait le faire.
Sans consulter son compagnon, Peretta décida pour deux.
Nous acceptons votre offre, Kenneth. Nous voguerons ensemble.
Oui, mais... balbutia Oliver. Nous n'avons pas de quoi payer.
Après ce que la magicienne a fait pour Enda sur Bay, nous vous devons une montagne de faveurs. En plus, si je reviens de cette aventure, on me paiera à boire pendant un an pour écouter mes récits. C'est un prix suffisant.
L'assiette de Kenneth débordait de nourriture. Alors qu'il y avait de la place en face, il s'assit à côté de Peretta et s'attaqua avec enthousiasme à son morceau de chèvre.
« De la viande, je n'en mange pas souvent. Pour un pêcheur, tous les repas ont le goût de la mer. La viande rouge, c'est quand même autre chose. »
Ravi par la tournure des événements, Thaddeus s'adressa au pêcheur.
« Pour votre voyage, vous pourrez emporter le reste de viande, Kenneth. »«
Quand partons-nous ?»
demanda Oliver, espérant avoir l'occasion de passer une longue nuit dans un bon lit au village.
« Demain à l'aube, à bord de mon bateau, le Bégonia. J'ai déjà les provisions de base et la réserve d'eau requise. Comme nous pêcherons en chemin, il n'y a pas de souci à se faire. »
Bien qu'il eût à peine goûté le vin local, Oliver se sentait épuisé. La décision de Kenneth lui fit l'effet d'un coup de massue.
« Demain à l'aube ?»«
Vous êtes pressé, non ?»«
Exact. » dit Peretta.
C'est vrai,
renchérit Oliver malgré sa déception. Il aurait tant aimé se reposer plus longtemps.
Soyez sur le Bégonia une heure avant le lever du soleil pour que nous ayons le temps de tout préparer.
Quand il eut fini son assiette, le marin se leva pour aller se servir une énorme portion de soupe aux moules. Alors que le soleil pointait sur les terres à l'est, les inondant de lumière orange, le bateau de pêche sortit du port de Renda Bay et mit le cap vers le nord. Dès que Kenneth eut déployé complètement la voile, le Bégonia fendit l'onde à une excellente vitesse. Quand Oliver proposa de participer aux corvées, le marin le regarda de la tête aux pieds et lâcha
« Tu es trop malingre. Je parie que tu n'as jamais rien soulevé de plus lourd qu'un livre. »
« Dans le mille !»
railla Peretta. Kenneth rassura ses compagnons.
« Je navigue seul depuis assez longtemps pour ne pas avoir besoin d'aide. Le cas échéant, je vous ferai signe. »
Quand le soleil tapa très fort, il retira sa chemise, la jeta dans la cabine et resta torse nu face au vent. Lorsque Peretta se détourna, gêné, il rit de sa réaction.
« Comme je l'ai dit, je navigue seul depuis un bail. N'espérez pas que je change mes habitudes. »«
Il n'y a aucun problème, »
assura Peretta d'un ton pincé. Plus tard, la chaleur devenant insupportable, Oliver retira aussi sa chemise, ce qui lui valut un sourire ironique de sa compagne.
« Mon garçon, » dit Kenneth, « t'auras intérêt à muscler un peu tout ça, on dirait une crevette. »
Il baissa le ton, pourtant conscient que Peretta entendrait quand même.
« Avec un physique pareil, t'es pas prêt d'impressionner la jeune dame. »«
Je n'en ai nullement l'intention, »
se défendit Oliver.
« De toute façon, étant informé de mes compétences d'érudit, elle devrait déjà être impressionnée. »
Une défense maladroite, mais quand on était dans ses petits souliers, Peretta vint à son secours.
« J'atteste qu'Oliver est un grand érudit. »
Kenneth éclata de rire.
« Dans ce cas, c'est un bien meilleur parti que moi. Je n'ai jamais posé les yeux sur un livre. Pêcher prend trop de temps. »
Quand le soleil frôla l'horizon, la température baissa et Oliver frissonna. Puis il comprit qu'il avait attrapé un coup de soleil, le premier de sa vie. Pour se réchauffer, il remit sa chemise. 6 jours durant, le Bégonia s'enfonça dans des eaux inconnues sans jamais s'éloigner de la côte. Tout ce temps, ils ne virent pas d'autres bateaux, aucune ville et même pas un petit campement.
C'est pour ça que ça fonctionne si bien ici, pas de compétition.
Ravi, Kenneth tira hors de l'eau un nouveau filet rempli de poissons. Après avoir sélectionné les plus goûteux, il remit les autres à l'eau.
« Demain, nous en pêcherons d'autres. »
Le marin avait englouti en 2 jours les restes de chèvres. Il en avait proposé à ses amis, mais ceux-ci, sachant qu'il en était fou, avaient décliné son offre. d'autant plus que le poisson et les crustacés pour eux étaient délicieusement exotiques.
« Je suppose que c'est la côte fantôme ?»
dit Kenneth après 2 jours supplémentaires de cabotage.
« Quand nous l'aurons dépassé, nous verrons des villes. »
Un matin, ils se réveillèrent entourés d'un brouillard si épais qu'il en devenait étouffant. Montant sur le pont, les deux érudits s'extasièrent comme si cette brume était une des merveilles du monde. Surpris par leur réaction, Kenneth comprit mieux quand ils lui expliquèrent qu'on ne voyait jamais de brouillard dans le désert.
« Profitez-en alors, mais priez pour qu'ils disparaissent parce qu'on navigue à l'aveuglette. »
À la proue, le marin sonda la purée de pois guidant lentement le bégonia. Oliver se joignit à lui, mais avec sa vue défaillante, il ne servit pas à grand-chose. Une couverture autour des épaules, Peretta vint leur tenir compagnie. Ils étaient encore ainsi quand la brume se dissipa, tel un rideau qu'un artiste écarte pour dévoiler sa dernière œuvre. Peretta poussa un petit cri quand elle aperçut les contours, puis les détails de la grande sculpture qui se dressait devant eux.
« Douce mère la mer, elle existe vraiment !»
s'écria Kenneth avant d'éclater de rire. La superbe femme était sculptée dans la saillie rocheuse d'une falaise qui dominait la mer. Ses tresses de pierre ondulant comme une marée montante, la géante était belle à se damner. Au pied de la falaise, des vagues venaient mourir sur les rochers couverts d'algues. Les bras écartés, paumes ouvertes vers le ciel, la statue semblait émerger de l'eau à partir de la taille. Alors que des oiseaux voltaient autour de son visage et de sa poitrine bien ronde, elle bénissait la mer. Le brouillard ayant presque disparu, Kenneth modifia le cap, poussant le bégonia droit devant.
« Nous ne sommes plus loin de Serimundi. Cette statue est une légende. Je n'aurais jamais cru la voir de mes yeux. »
La vue enfin dégagée, les trois voyageurs repérèrent autour d'eux d'autres bateaux de pêche et de plus grands navires.
« Ils bâtissent de grandes villes dans le nord. »
souffla Kenneth, les yeux rivés sur les bâtiments serrés les uns contre les autres à flanc de colline, juste au-dessus du port. Oliver plissa les yeux pour mieux voir les grands temples, les maisons blanches et les arches, des ponts en réalité, enjambant les deux fleuves qui traversaient la cité avant de venir se jeter dans la mer. Si loin que porta la vue, un très haut clocher dominait le paysage.
« J'ai lu des descriptions de grandes villes du passé, » dit Oliver, « mais rien ne m'avait préparé à ça.
J'aurais juré que la bibliothèque de surplomb du monde était le plus grand bâtiment de l'univers. »
souffla Peretta.
« Et je me trompais ?»
Après des semaines à voyager avec elle, Oliver fut surpris d'entendre la mémoriste faire montre d'humilité. Mais il ne la taquina pas. Aussi émerveillé que ses compagnons par le spectacle, Kenneth guida son bateau dans le port bondé.
« Serimundi, j'avais promis de vous y conduire et nous y sommes. »
« Ce n'est qu'un début, »
dit Peretta avec un grand soupir. Mais elle souriait et Oliver aussi.
« Il nous reste encore beaucoup de chemin à faire, » dit-il.
Mais après ce qu'ils avaient déjà accompli, rien ne semblait impossible.